Chapitre 4. Le voyage dans les airs. La deuxième à droite et droit devant jusqu'au matin. Peter l'avait dit à Wendy, tel est le chemin qui mène à l'imaginaire. Mais les oiseaux eux-mêmes, quand ils auraient emporté des cartes pour les consulter à la croisée des vents, auraient trouvé ces renseignements insuffisants. Peter, voyez-vous, avait l'habitude de dire tout ce qui lui passait par la tête. Au début, ses compagnons se fièrent aveuglément à lui. C'était si agréable de voler qu'ils perdirent beaucoup de temps à tournoyer autour des clochers et des tours, seulement pour le plaisir. John et Michael faisaient la course à travers les espaces célestes. C'était autrement formidable que de voler dans leur chambre. Dire qu'ils en étaient si fiers il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps, mais encore. Depuis combien de temps déjà? Ils survolaient la mer quand cette question vint troubler Wendy. John estimait qu'ils en étaient à la deuxième mer et à la troisième nuit. Tantôt il faisait sombre, tantôt clair, tantôt glacial, tantôt étouffant. Avait-il vraiment faim ou faisait-il seulement semblant parce que Peter avait un si drôle de moyen de les approvisionner? Cela consistait à poursuivre les oiseaux et à leur chiper la proie qu'ils tenaient dans leur bec quand elle était comestible pour l'homme. Les oiseaux essayaient de récupérer leurs biens et c'était de folles poursuites sur des centaines de kilomètres qui se terminaient par un partage à l'amiable. Non sans une légère inquiétude, Wendy observa que Peter ne semblait pas se douter que cette façon de gagner son pain quotidien n'était pas très régulière, ni qu'il existait d'autres manières de le faire. Quant à avoir sommeil, ils ne faisaient pas semblant, ils avaient sommeil. Et c'était dangereux, car dès qu'ils s'endormaient, plouf, ils tombaient. Pour comble, Peter trouvait cela amusant. « Le voilà qui dégringole !» s'écriait-il joyeusement, quand Michael chutait comme une pierre. « Sauve-le !» suppliait Wendy avec un regard affolé vers la mer si loin là-bas, en bas. Peter finissait toujours par plonger et rattraper Michael juste au ras des flots. Son agilité tenait du miracle, mais il attendait toujours la dernière minute pour se porter à la rescousse et il était évident qu'il prenait plus d'intérêt à montrer son adresse qu'à sauver une vie humaine. En outre, étant d'humeur changeante, ce qui l'amusait en ce moment l'ennuyait l'instant d'après et l'on se demandait s'il n'allait pas vous laisser choir à la prochaine occasion. Lui-même était capable de dormir sans tomber. Il se mettait tout simplement sur le dos et flottait. Car il était excessivement léger. Vous auriez pu le faire avancer rien qu'en soufflant dessus. « Montre-toi plus courtois avec lui, » chuchota Wendy à John, alors qu'on jouait à suivre le guide. « Qu'il cesse d'abord de crâner, » répliqua John. Au jeu de suivre le guide, il fallait raser la crête des vagues et toucher au passage la queue des requins, de la même façon qu'on laisse courir sa main sur une rampe d'escalier. Peter était le seul à y réussir et se retournait pour voir combien de fois les autres manquaient le but, ce qui en effet pouvait passer pour de la crânerie. « Vous devez être aimable avec lui, » insista Wendy auprès de ses frères. « Que ferons-nous s'il nous abandonne ?»« Nous retournerons en arrière, » dit Michael. « Et comment retrouverons-nous notre chemin sans son aide ?»« En ce cas, nous poursuivrons en avant, » dit John. « Voilà justement ce qu'il y a de terrible, John. Nous serions obligés de continuer parce que nous ne savons pas comment nous arrêter. » C'était vrai. Peter avait oublié de leur montrer. John déclara que si le pire devait arriver, il ne leur resterait qu'à poursuivre droit devant eux. Étant donné que la terre est ronde, ils finiraient bien par se retrouver à un moment devant leur propre fenêtre. « Et qui va nous donner à manger ?»« J'ai fauché une jolie prise au bec de cet aigle, Wendy. »« Oui, John, au 20e essai, » lui rappela sa sœur. « En même temps, si nous devenions habiles à voler de la nourriture, tu vois bien, nous ne cessons pas de nous cogner au nuage quand il n'est pas là pour nous prendre par la main. » Effectivement, ils n'arrêtaient pas de se cogner. Ils volaient plus sûrement à présent. Mais lorsqu'ils apercevaient un nuage devant eux, plus ils cherchaient à l'éviter, plus ils fonçaient droit dedans. Si Nana avait été là, Michael aurait porté un bandeau autour du front depuis longtemps. En ce moment, ils se sentaient un peu seuls là-haut. Peter les avait délaissés pour courir une aventure à laquelle ils n'auraient aucune part. Peut-être reviendrait-il, riant encore de la blague qu'il venait de dire à une étoile, mais qu'il avait déjà oubliée, ou remonterait-il de la mer, avec des écailles de sirène collées à la peau, mais incapable de raconter ce qui s'était passé. Pour des enfants qui n'ont jamais vu de sirène de leur vie, c'était plutôt irritant. Et s'ils les oublient si vite, comment pouvons-nous être sûrs qu'ils se souviennent de nous? Car à plusieurs reprises, ils semblaient les avoir oubliés. Wendy en était certaine. Une fois, elle avait même dû lui rappeler son nom. « C'est moi, Wendy !» avait-elle crié, angoissée. « Wendy ? » répondit-il. « Désolé. Si jamais tu vois que je t'oublie, répète-moi ton nom sans arrêt et je te reconnaîtrai. » Ce n'était guère rassurant. Toutefois, pour se faire pardonner, il leur apprenait à se laisser porter par les courants aériens qui suivaient la même direction. Ainsi, couchés à plat ventre sur les vents, ils pouvaient dormir en toute sécurité. Mais Peter se lassait vite de dormir. « Tout le monde descend !» criait-il de sa voix de capitaine. Après un voyage follement gai, bien contrecoupé de prises de bec, on finit par être en vue du pays de l'imaginaire. Les voyageurs avaient mis bien des lunes pour l'atteindre, et s'ils ne dévièrent jamais de la bonne direction, ce fut dû moins au sens de l'orientation de Peter qu'au fait que l'île était allée à leur rencontre et les cherchait. Sans quoi, personne ne peut voir ces rivages magiques.